7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'enfance maltraitée, peut-on enfin agir? Cela se passe en général à l'intérieur de la famille. Ce sont des coups, des sévices, des tortures. Les voisins entendent parfois des cris, mais que font-ils? C'est l'une des atteintes aux droits humains la plus silencieuse, la plus généralisée de la planète et qui, en France, par exemple, entraîne la mort de plusieurs enfants par semaine. Un plan national de lutte contre cette maltraitance a été lancé, mais à la toute fin de la présidence Hollande. Alors pourquoi les politiques dans l'ensemble se sentent-ils si peu concernés par un fléau qui tue? Quelles sont les solutions efficaces aussi pour lutter contre ces violences? Faut-il davantage signaler, dénoncer, au risque de s'immiscer dans la vie privée des familles? Bref, à quoi peuvent servir les voisins? Et puis quel est le rôle aussi des services sociaux? Et plus largement, quelle est la responsabilité de la société? Si vous souhaitez participer à l'émission, appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 pour nous parler de la situation dans votre pays ou peut-être de ce que vous avez vécu. Et bien sûr, vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Dans le studio, je reçois Omera Cellier, présidente de l'association Innocence en Danger. Bonjour.
Bonjour.
C'est une des principales associations militantes et qui se constitue d'ailleurs assez systématiquement partie civile dans les grands procès contre des parents meurtriers. C'est une association qui est présente dans plusieurs pays et vous avez tout récemment lancé une campagne hashtag Guilty Tags sur Instagram et qui implique la société tout entière dans cette responsabilisation. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Yves Crespin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, spécialiste de l'enfance maltraitée pour l'association L'Enfant Bleu, qui est une association qui a 25 ans d'existence. Vous avez vu passer beaucoup de procès, vous aussi. Vous nous direz pourquoi il est encore difficile de signaler une enfant régulièrement battue, y compris du côté des médecins, et quelles sont les condamnations et sanctions judiciaires pour les adultes maltraitants. Louis Merlin, également parmi nous, de l'aide sociale à l'enfance en France. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes de Paris. Vous allez nous expliquer comment fonctionne l'administration française pour tenter de protéger les enfants. Et bien sûr, je vous redonne notre numéro de téléphone, les 33 1 84 22 71 71. Quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Massala Brazzaville qui nous dit que les enfants maltraités au Congo Brazza, c'est récurrent. C'est souvent lorsque les parents sont divorcés que l'enfant subit des violences par la rivale de la mère qui maltraite l'enfant ou bien encore le père adoptif. Charles qui est au nord-est du Burundi à Gisagara nous dit que des cas d'enfants maltraités existent là où j'habite. Cela est dû au fait que l'enfant est chez la marâtre ou le parâtre. Je pense aussi que la crise économique que nous traversons, enfin c'est plus qu'une crise économique au Burundi, parlons clairement, hein, entraîne les parents à se venger sur leurs enfants pour lesquels ils doivent dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors c'est vrai, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus, peut-être Omera Cellier, que les pays qui vivent des situations de grande violence à l'échelle nationale, des pays en guerre, des pays de dictature, est-ce que les familles ont davantage tendance à être maltraitante avec leurs propres enfants quand on a une violence généralisée de la société?
Écoutez, je pense que oui. Je pense que la violence ambiante génère de la violence. Et donc, c'est évident que dans les pays comme Congo, Rwanda, là, nous avons une stagiaire qui est partie à Congo il y a une semaine. Et j'entends ce que j'entends. Et c'est évident que, oui, dans un milieu violent.
Linko est à Jacmel en Haïti. Il nous dit que les signalements sont en développement en Haïti, mais il faut que les nouvelles générations aient une bonne éducation, qu'ils respectent leur culture, leurs croyances et qu'ils ne reproduisent pas les erreurs de leurs aînés. Ou encore Fabrice qui est à Abomey-Calavi au Bénin et nous dit qu'on ne manque pas d'enfants maltraités, hélas, ici. Les parents ne cessent de maltraiter leurs propres enfants. Moi-même, j'ai subi ça quand j'étais enfant et que j'étais placée dans une famille. Voilà, appelez-nous maintenant au 33 1 84 22 71 71.
Sept milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Est-ce qu'il existe une définition de la maltraitance envers un enfant, Louis Merlin?
Alors, il existe déjà la définition de ce qu'est une information préoccupante, qui est tout élément qui est transmis au conseil départemental ou à l'aide sociale à l'enfance et qui peut laisser craindre que la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant sont compromises ou gravement compromises, ou que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être, effectivement. Donc, il y a un certain nombre de signaux d'alerte auxquels sont formés les assistantes sociales et les éducatrices spécialisées qui interviennent auprès des enfants pour reconnaître un enfant qui pourrait se trouver en difficulté au sein de sa famille.
Quelle est la différence entre la maltraitance, la carence, la négligence éducative, Yves Crespin ?
Eh bien,
les frontières ne sont pas toujours très claires.
Les frontières sont effectivement très ténues. On peut basculer très rapidement d'une mauvaise traitance à une maltraitance, si je peux me permettre. C'est-à-dire que des mauvaises pratiques, des habitudes qui sont prises dans les familles peuvent devenir des habitudes de maltraitance. C'est la difficulté. Où est le curseur ? Quand peut-on intervenir ? Quand pense-t-on qu'un enfant est dans une situation de danger qui nécessite l'intervention de l'institution, des services ? C'est extrêmement difficile, mais il y a des relais, il y a des institutions qui sont là pour ça, en France en tout cas, pour intervenir aux côtés des enfants.
Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui, Omer Asselier?
Sur quoi?
Sur la maltraitance. Alors, déjà sur le nombre d'enfants qui décèdent sous les coups de leur famille.
Il n'y a pas de chiffres officiels. D'ailleurs, ça prouve le manque d'intérêt sur le sujet. Par contre, on dit qu'il y a entre 400 et 800 enfants qui meurent par an en France. Ce sont des chiffres qui remontent des hôpitaux. Et la première fois que j'ai entendu ce chiffre, c'était en 2013, je crois, le chiffre était donné dans une conférence qui avait été initiée par Anne Turs, qui est une spécialiste. Et là, on était à deux enfants par jour. Mais je dirais qu'on est entre 400 et 800. J'aimerais bien, comme d'autres associations, je suis sûre, qu'il y ait des chiffres officiels, qu'il y ait des... Oui.
L'autopsie des enfants qui sont morts sans cause apparente n'est toujours possible qu'avec l'accord des parents aujourd'hui ou pas ?
Oui, apparemment, mais je crois qu'il faut être extrêmement précis, prudent plutôt, sur ces chiffres. C'est un problème que nous soulevons régulièrement et de manière récurrente auprès des autorités publiques, parce que ce chiffre est un marqueur de la maltraitance. Or, nous ne le connaissons pas véritablement. Omer Asselier dit à juste titre qu'on est entre 400 et 800. Au début, lorsque je me suis intéressé au problème de la maltraitance des enfants, on était à un enfant par jour et par an en France. On en est maintenant à plus de deux. Donc, vous voyez,
c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, que le phénomène
c'est
progresse
vraiment un
ou pas
problème. On n'en sait rien. On a l'impression que ça progresse.
C'est ça, c'est que
L'INSERM et Anne Turtz nous donnent des chiffres qui sont extrêmement inquiétants et dont j'ai l'impression que les autorités politiques n'ont pas pris la véritable dimension. C'est un vrai problème
de
santé publique.
Mais pourquoi il y a si peu de mobilisation, Louis Merlin, par rapport aux violences faites aux femmes, par exemple, alors que les enfants sont quand même par définition les victimes les plus vulnérables?
Moi, je pense qu'il y a de la mobilisation. Après, je vais parler de ma fenêtre.
C'est-à-dire l'administration française, l'aide sociale à l'enfance.
Oui, l'administration départementale, déjà, parce que chaque département ensuite organise la protection de l'enfance avec ses moyens, même s'il y a un cadre qui est imposé par la loi du 5 mars 2007 avec la création de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y a une loi qui est passée de nouveau le 14 mars 2016, qui renforce... Enfin, qui axe sur les besoins fondamentaux de l'enfant, alors que la loi de 2007 était plus axée sur les difficultés éducatives de l'autorité parentale. La mobilisation... Nous, par exemple, moi je suis à la tête d'une équipe de 15 personnes, de travailleurs sociaux, d'un médecin prévention de protection de l'enfance et de mon adjointe, et on est régulièrement amené à faire des interventions auprès des institutions, mais aussi des associations, pour expliquer le fonctionnement, le circuit du signalement, quels sont les signaux qui peuvent amener à faire un signalement ou à transmettre une information préoccupante à la cellule. Donc nous, en tout cas, institutions, on se mobilise comme ça, c'est-à-dire à la rencontre des partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels.
Il y a un numéro de téléphone, c'est le 119, hein, enfants en danger.
Alors le 119 ne dépend pas de l'aide sociale à l'enfance, mais effectivement on travaille beaucoup avec le 119.
Et il dépend de qui alors ce 119 ?
Il dépend d'un groupe interministériel de protection de l'enfance en danger. La CRIP, elle n'a pas vocation, si vous voulez, à recevoir des appels téléphoniques de particuliers, alors ça peut être le cas. Dans ces cas-là, on va tenter de rerouter vers les circuits
c'est
classiques.
Ça, vous êtes en principe saisi par une institution scolaire
Par un professionnel, avec un... Par oui, quelqu'un qui est en contact avec des enfants, ça peut être un médecin libéral aussi, ça peut être les hôpitaux. Mais nous, on travaille sur la base d'un écrit, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un écrit, on n'a pas la possibilité, si on veut aller plus loin, de faire une transmission au parquet des mineurs, puisque le parquet des mineurs, pour se saisir d'une situation, il lui faut des éléments. Donc effectivement, le 119 fait partie des partenaires avec lesquels on travaille beaucoup, puisque les particuliers contactent le 119 et que le 119 est tenu de faire un compte-rendu écrit qu'il transmet à la CRIP, dont dépend le domicile de la famille.
Un numéro de téléphone comme le 119, c'est utile, c'est efficace ou pas ?
Bien sûr que c'est utile, mais la CRIP qui a été créée par la loi du 5 mars 2007 est une nouveauté qui était intéressante. Le problème, c'est que nous mettons en place des institutions, des cellules de recueil des paroles, des relais. Le problème qui va se poser, c'est après. Quel va être le traitement qui va être fait de ces signalements ? Et il faut dire que les réponses qui sont apportées, notamment par la justice, soit sont très lentes, soit ne sont pas adaptées. Et c'est malheureusement les enfants qui vont en souffrir. Nous avons eu des cas nombreux de situations signalées, éventuellement traitées par les services sociaux, mais qui ne donnent pas de lieu à des réponses adaptées de la justice.
Oui, alors enfin, moi, là aussi, toujours vu de ma fenêtre, toutes les informations préoccupantes qui sont transmises à la cellule font l'objet d'un traitement et d'une évaluation, avec des délais là, qui ont été rapportés à 3 mois, c'est le dernier décret là, d'octobre 2016 qui reprécise ça.
3 mois, c'est-à-dire ?
3 mois pour évaluer une situation. C'est sans délai quand il y a effectivement urgence à intervenir, c'est-à-dire que nous, on peut demander aux services sociaux de proximité d'intervenir dans les 24 heures ou dès qu'ils ont l'information.
À partir de quoi vous pouvez évaluer le degré d'urgence pour une famille que vous n'avez pas vue ?
Bah, c'est ça la difficulté, c'est que où est-ce qu'on place le curseur sur on lance une évaluation, on va demander aux travailleurs sociaux d'intervenir, de se présenter au domicile. Ça peut être dans des cas où effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a des hurlements, mais où il y a un professionnel aussi qui a pu constater des carences importantes. C'est-à-dire qu'en fait, dès que nous on est alerté sur un enfant qui sera en danger immédiat, grave et immédiat, on a cette possibilité d'intervenir sans délai. Ensuite, quand je parlais des 3 mois, c'est que pour une situation moins urgente, il y a un délai pour évaluer cette situation qui est de 3 mois.
Là où on est plus dans des problèmes de carence éducative que de la maltraitance physique grave.
Alors après, au cours de cette évaluation, même si on n'est pas sur de la maltraitance grave au démarrage, si les premières constatations font qu'on se rend compte qu'il faut intervenir plus vite, j'ai envie de dire, l'évaluation va s'accélérer, entre guillemets. Après, je termine par rapport à tous les signalements, parce qu'un signalement, c'est ce qui est transmis au parquet des mineurs, contrairement à une information. C'est-à-dire qu'on ne signale pas à la CRIP, on envoie une information.
On va réexpliquer le circuit, c'est-à-dire moi, voisine de palier, j'entends dans l'appartement d'à côté des hurlements, je suis susceptible d'appeler le 119 parce que j'ai le sentiment que régulièrement un enfant subit une maltraitance grave. J'appelle ce numéro de téléphone et ensuite que se passe-t-il ? Quel est le circuit classique pour tout citoyen finalement ?
Alors pour tout citoyen, on en parlait un petit peu avant de rentrer dans le studio, en se disant que le citoyen, il a aussi la possibilité d'appeler la police, d'appeler le commissariat de police quand il entend des hurlements, quand il a l'impression qu'un enfant sur le palier d'à côté est en train d'être frappé. Parce que le 119 n'a pas une capacité d'intervention pour envoyer une équipe sur place. Donc la difficulté que rencontre un certain nombre de particuliers, c'est justement ce passage de « je fais le pas pour appeler les services de police ». Et nous, on se retrouve parfois assez régulièrement avec des situations du 119, où c'est un voisin qui contacte, mais malheureusement, il n'est pas en capacité de donner le nom de famille, etc., etc. Donc même ensuite, quand on va intervenir avec les services sociaux.
Vous imaginez aussi la situation d'un voisin qui fait débarquer la police chez son autre voisin.
Je pense que c'est une des difficultés. Après, on arrive souvent à envoyer des travailleurs sociaux, parfois accompagnés de la police, sur ce type de situation. Et on se retrouve confronté à des choses assez bêtement pratiques, c'est-à-dire on n'a pas le digicode, on ne sait pas à quel étage ça se trouve, le nom n'apparaît pas sur la boîte aux lettres, etc.
Alors plus classiquement, les adultes qui voient le plus fréquemment les enfants et qui passent 8 heures par jour avec ces enfants, ce sont les enseignants. Hein, c'est la sphère scolaire. Que se passe-t-il du côté des écoles aujourd'hui? Est-ce que les enseignants sont suffisamment formés? Blanchard nous a posté ce message, il est au Bénin, il nous dit qu'il faudrait former les enseignants à détecter les cas de maltraitance sur les enfants et les signaler. Qu'est-ce que vous en pensez, Omera?
Écoutez, je pense qu'on pourrait partir de cas d'enfants morts aujourd'hui, des cas emblématiques où effectivement le corps, je dirais les instituteurs, les personnes qui fréquentent l'enfant, qui voient l'enfant tous les jours pendant des heures, n'ont pas agi ou très peu. Donc oui, il faut former.
Mais ils n'ont pas agi parce qu'ils n'ont pas vu?
Ils n'ont pas agi parce qu'ils n'ont pas décelé qu'il y avait maltraitance.
Écoutez, vous pensez à des cas récents?
Pour moi, Marina est un cas de tous les jours. Parce que le cas de Marina, on sait ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il y a d'autres Marina, probablement à l'heure où on se parle. Lorsqu'un enfant arrive empitouflé de vêtements, de doudoune alors qu'il fait chaud dehors, il faut que quelqu'un se dise mais pourquoi
des questions.
Oui.
Lorsqu'un enfant a des 2012, bleus. Les parents ont été condamnés à 30 ans de réclusion pour le meurtre de Marina. On a beaucoup dit il y aura un avant et un après Marina.
Et je suis entièrement d'accord, il y a un avant et un après. Moi personnellement, c'est le cas de Marina Sabatier qui m'a réveillée à ce qui se passe.
Combien
à
la de procès depuis enfantine. Combien de meurtres épouvantables depuis
des centaines.
Et là c'est énormément. Tous les ans, nous avons dizaines
l'affaire
de
Lohan, l'affaire Inaya,
procès.
On pourrait en citer plein.
Voilà, j'ai encore en tête, et je le garderai toujours, le procès de l'affaire du petit Julien qui s'est passé à Nîmes, où là, un problème de traitement d'un signalement s'est posé, à savoir que c'est un petit bébé de 8 mois qui a été battu à mort par son père, il est mort de souffrance, cet enfant. Eh bien, 15 jours avant le décès de l'enfant, sa situation était signalée par la gendarmerie d'Alès au parquet des mineurs de Nîmes et d'Alès, qui n'ont pas bougé. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons tout un maillage d'institutions, les CRIP c'est formidable, le 119 c'est formidable, mais il y a un problème de réponse au signalement qui, actuellement, pose un vrai problème, une vraie difficulté.
Où est-ce que ça coince alors? C'est à partir de l'information préoccupante qui ne débouche pas suffisamment sur l'action d'un procureur, par exemple?
Ce dont parle M. Crespin, le procureur était alerté. Alors après, je ne peux pas me prononcer pour la justice. Moi, de ma pratique au quotidien...
Au-delà de l'information préoccupante, vous n'êtes plus concerné, en fait.
À partir du moment où nous, on a transmis un signalement au parquet des mineurs, c'est pas qu'on n'est plus concerné, puisqu'on attend quand même d'avoir les suites qui y sont données. Mais ensuite, le parquet des mineurs, quand on est sur l'urgence, il doit traiter dans la journée.
Exactement.
Donc moi, de ma pratique quotidienne, je vois que le parquet des mineurs traite dans la journée et qu'on a de très bonnes relations avec lui, que c'est assez fluide. Alors après, est-ce que c'est plus fluide sur Paris qu'ailleurs, ça je saurais pas le dire. Mais moi, j'ai pas cette impression qu'une fois que la justice est saisie, il ne se passe rien derrière.
Et là,
la justice, elle peut demander...
Il faudrait venir un peu plus souvent dans les tribunaux.
Est-ce que ça vient aussi du signalement? Parce qu'il y a une différence entre informations préoccupantes, il y a d'autres types de signalements également.
Après, il y a des signalements directs que font par exemple les hôpitaux, que peut faire l'éducation nationale directement auprès du parquet quand ils s'inquiètent de la situation d'un mineur, avec une copie à la CRIP. C'est-à-dire que là, c'est pas envoyé à la CRIP qui va faire une primo-évaluation ou qui va estimer le degré de gravité pour transmettre ou non au parquet, c'est transmis en direct. Donc ce circuit, il fonctionne aussi. Après, il y a aussi la question de la formation des assistantes sociales ou de tous les travailleurs sociaux. Là aussi, la loi de mars 2016 remet l'accent là-dessus, sur la nécessité de former tous les personnels qui sont en contact avec des enfants.
Il y a ça, et puis il y a des petits changements qui pourraient tout changer. Lorsque je reviens sur le cas de Marina, cette famille était suivie par les travailleurs, par les services sociaux.
C'est un cas extrême, le cas de Marina.
Oui. Mais attendez, moi je trouve que lorsqu'un travailleur social va dans une maison et ne voit pas l'enfant, il n'a pas le droit d'écrire un petit mot en disant que tout va très bien dans cette famille, Marina joue au parc. Et dans le cas de Marina, et quand elle a écrit ça, elle était dans le congélateur, elle était déjà morte. Et il y a d'autres enfants, on n'a pas le droit. Il faut que ça devienne une loi.
Vous restez avec nous, on va parler notamment aussi de la campagne Guilty Tags, qui implique tout le cercle d'adultes, les voisins et les voisines. Bien sûr, vous pouvez nous appeler, on parle de la maltraitance des enfants, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle de l'enfance maltraitée. Comment en finir avec les silences de la société sur ces atteintes les plus flagrantes aux droits humains? Indifférence, respect de la vie privée des familles aussi parfois, ce que certains arguent. Que peuvent faire les voisins, l'école, les médecins qui sont confrontés à ces violences? On en discute avec vous, Omer Asselier de l'association Innocence en danger, Yves Crespin, avocat pour l'enfant bleu, une autre association, et Louis Merlin, responsable de la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes de Paris. Donc la fameuse CRIP qui dépend de l'aide sociale à l'enfance et donc qui transmet des informations préoccupantes. Hein, c'est bien ce que vous nous expliquez en première partie, qui sont en général ces informations préoccupantes, vous les recevez via des professionnels qui sont confrontés à ces situations, qui sont confrontés à des enfants maltraités. Ce n'est pas un service que peut saisir tout citoyen. En revanche, tout citoyen en France peut bien sûr appeler le 119 et ensuite être aiguillé pour savoir quelle est la marche à suivre. Mais tout de même, vous en conveniez tous en première partie d'émission, c'est pas simple quand on est un voisin, quand on est un adulte confronté à un enfant maltraité dans son entourage, de signaler, de dénoncer. Yves Crespin, oui. En tant qu'avocat, vous souhaitiez nous rappeler tout de même quelques notions de droit, et d'ailleurs pas seulement en France. Hein.
Oui, c'est pas simple, vous avez raison, sauf que c'est une obligation. Il faut rappeler que la loi sanctionne la non-dénonciation de crimes ou de délits dont sont victimes les enfants. C'est l'article 434-3, si ma mémoire est bonne, qui punit d'une peine de 3 ans, on en demande d'ailleurs l'aggravation, mais c'est le code pénal et c'est l'attitude normale. Dénoncer est l'attitude normale. Ce n'est pas une faute.
Dans la réalité.
C'est une infraction de ne pas dénoncer.
Dans la réalité. De même que les voisins sont fréquemment poursuivis.
L'article 40 de la loi du code de procédure pénale fait une obligation aux fonctionnaires de dénoncer les délits dont ils ont connaissance. Donc vous voyez, c'est l'arsenal législatif est là pour dire quelle est l'attitude normale que doivent avoir toute personne qui a connaissance d'un délit. Alors maintenant, après, il y a des situations à apprécier, c'est évident. C'est pour ça que c'est pas simple, mais on a les outils pour apprécier ces situations difficiles.
Nous donnons la parole à des auditeurs qui nous appellent au 33 1 84 22 71 71. Marina nous appelle du nord de la Côte d'Ivoire à Bouaké. Bonjour Marina.
Bonjour Emmanuel.
Marina, vous avez 28 ans. Je crois que vous-même, vous avez eu une enfance difficile.
Très difficile. En fait, tout a commencé quand mes deux parents ont divorcé.
Oui.
Et mon père a rencontré une femme qui est venue à la maison, qui ne venait pas nous voir. Au début, ça a commencé par les intimidations. Les intimidations, on ne mangeait même pas nos faim. Après, c'est les on nous battait à chaque fois.
Oui.
Fais ça, fais ceci. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu n'es pas arrivé à temps? Tu devais rentrer. Pourquoi tu n'es pas venu? Je t'ai appelé combien de fois? Tout ça, on a su. Quand je parle de ça, j'ai envie de couler des larmes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai des cicatrices physiques et psychologiques.
Oui.
Je vous assure.
Marina, comment vous en êtes sortie finalement de cette maltraitance avec votre belle-mère?
Au sortir de la maltraitance, j'ai convaincu d'abord ma camarade qui était ma voisine directe. On partait à l'école ensemble.
Oui.
Et qui a vu son père. Et à la suite de ça, elle est venue me voir, m'a bien demandé ce qui se passait, tout ce que je lui ai dit.
C'est-à-dire que vous avez demandé à votre camarade d'école que son père, à elle, puisse vous aider, vous recueillir dans sa propre famille. Hein. C'est bien cela, vous aviez 9 ans, je crois.
Oui, parce que c'était notre
Donc après, après un an de sévices subis par votre belle-mère.
Un an, j'ai subi sa deuxième année.
Alors évidemment, à l'âge que vous aviez, j'imagine que c'était impensable d'aller voir la police?
Non, je n'ai même pas imaginé.
Est-ce qu'ensuite vous avez pensé à porter plainte par la suite, devenue adulte?
Ça me vient tout le temps.
Ah, vous y pensez encore aujourd'hui?
J'ai envie de le faire. Oui, j'ai envie de le faire. C'est pas que j'ai mis, ça me vient de tous les jours. Et que je deviens amère de plus en plus. à te faire là, je vais la dénoncer. Jusqu'aujourd'hui, elle ne veut pas nous voir à la maison. Mmh. Et j'en souffre beaucoup. Je ne peux même pas voir mon père. Je ne fais que l'appeler au téléphone.
À cause de ces coups reçus. Marina, vous avez le sentiment aujourd'hui que... il manque quelque chose pour que vous puissiez déclencher une procédure juridique qui n'est pas impossible hein, dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Reste à savoir sur quoi elle déboucherait.
Oui, je pense qu'il me manque beaucoup de choses parce qu'il y a l'argent qu'elle a.
Pour prendre un avocat.
Voilà.
Merci beaucoup Marina de nous avoir appelé, d'avoir eu le courage aussi de témoigner des séquelles de ce qui reste quand on est adulte, hein, de cette maltraitance. Nous accueillons Cher qui nous appelle de Mohamed, qui nous appelle de Bamako. Bonjour Mohamed, vous êtes médecin je crois.
Absolument, bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct et nous vous écoutons chez 7 milliards de voisins.
Merci. J'ai un témoignage à faire. Personnellement quand j'étais enfant, j'ai été... frappé. Maintenant, j'ai deux enfants, une fille de 5 ans,
oui.
Un garçon de 3 ans.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai interdit à tout le monde de frapper mes enfants et de les crier là-dessus.
Mm-hmm.
Là-dessus.
Mm-hmm.
Donc, je discute avec mes enfants, je joue avec eux. Voilà, c'est ça en ce qui me concerne. Mais j'ai la chance d'aller à l'intérieur du pays, particulièrement dans les villages. Et je pense qu'il faut déjà donner un contenu au mot violence sur les enfants ou maltraitance. Parce qu'il est frapper les enfants pour beaucoup de Maliens est quelque chose de normal. Mmh. C'est une manière de les éduquer.
Mmh.
Et ils ne se rendent pas compte que plus tard, ça joue sur la confiance que les enfants ont sur eux-mêmes. Et plus tard, ça les amène à être violents à leur tour. Je pense qu'il est important déjà de sensibiliser et de leur faire comprendre que frapper les enfants, maltraiter les enfants, fera d'eux des adultes qui seront violents. Ce qui n'est pas vraiment compris, en tout cas dans le contexte malien.
Merci beaucoup de nous avoir appelés pour ce témoignage. Effectivement, alors je ne sais pas, Omer Asselier de Innocence en danger, vous êtes présent dans plusieurs pays. Est-ce que la sensibilisation à la maltraitance passe avant tout aussi par une forme d'éducation des parents ?
Bien sûr. Bien sûr, c'est évident que en France, nous sommes face à une situation où rien n'est clairement dit. Par exemple, je suis obligée de parler de ça parce que je trouve ça deux choses très importantes. Mmh. En 2015, la France est condamnée par le Conseil de l'Europe parce qu'elle ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise de ce que sont les châtiments corporels. Ça rejoint un peu ce que disait ce monsieur.
Mmh. L'interdiction de la fessée a été d'ailleurs retoquée par le Conseil constitutionnel.
Mais ça, justement, ça, c'est scandaleux. Comment est-ce qu'on a pu abroger cette loi fin janvier, alors que, je veux dire, c'est une évidence, parce que les enfants qui sont morts depuis 2017, Loan, Tony, Amine, Yanis, etc., ils sont tous morts suite à des punitions. Alors comment est-ce qu'on peut abroger une loi aussi importante par le Conseil constitutionnel qui n'est pas constitué d'avocats ni de personnes qui connaissent le monde de la protection des enfants, du tout, loin de là. Donc ce sont les anomalies de la France. Et d'ailleurs, il faut savoir que selon l'UNICEF, le bien-être de l'enfant en France est le 19e sur 21 pays d'Europe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc dans les autres pays,
ça
d'abord...
Ça prend en compte beaucoup d'autres facteurs néanmoins.
Oui, dans d'autres pays, le sujet de l'enfance est quand même une priorité. Dans d'autres pays, on peut dire que ce type de constat ont fait que la santé publique s'est emparée de ce sujet.
Est-ce qu'il y a justement plus d'accompagnement des services sociaux, par exemple, auprès des familles qui sont déjà repérées comme maltraitantes ou possiblement maltraitantes ? Comment ça se passe ? Quelle est l'approche dans d'autres pays européens, notamment ?
Déjà, les travailleurs sociaux sont tous formés. Déjà, il y a un fichier.
Non,
je peux.
Ils sont peut-être moins bien payés, par contre, en France. Mais ça, je pense que c'est aussi une dimension assez importante. Qu'un travailleur social en Allemagne, par exemple, gagne beaucoup plus.
Oui.
Comme un professeur, gagne beaucoup plus qu'un travailleur social en France.
Tout à fait.
Alors, on ne travaille pas mieux parce qu'on est mieux payé, mais il y a une reconnaissance du métier, quand même.
Bien sûr. Qui passe par là. Oui, vous avez raison. Ceci étant dit, moi, j'ai connu des personnes qui se sont fait embaucher comme travailleurs sociaux qui n'ont pas de formation. Je parle de la France et je ne suis pas en train d'essayer de contredire qui que ce soit. Il faut reconnaître cette vérité-là pour pouvoir combattre les choses sérieusement. Ce n'est pas en se cachant derrière son petit doigt et en refusant de constater ce qui se passe vraiment sur le terrain qu'on va avancer. Et c'est des vies d'enfants en jeu. Donc je suis désolée, je le dis, toutes les travailleurs sociaux ne sont pas formés. J'en ai connu qui ne l'étaient pas. J'ai des amis qui se sont fait, enfin des amis, des connaissances qui se sont fait engager en tant que travailleurs sociaux avec très peu de demandes de ce qu'ils savaient, de connaissances, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a un contrôle qui se fait. Je veux dire, un travailleur social doit avoir des comptes à rendre. Je suis désolée.
Est-ce que la maltraitance grave sur un enfant est liée à un milieu social ou pas ?
Non, on ne peut pas dire ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les interventions de vos auditeurs,
justement,
on voit bien que la violence faite aux enfants est sans frontières. Mais c'est tout va passer par l'éducation des populations, par
l'information. Est-ce que ça veut dire donc que dans un pays comme la France, est-ce que plus les familles sont éduquées, moins elles sont maltraitantes avec leurs enfants ou pas, justement?
On peut l'espérer, mais
c'est pas quelque chose.
C'est pas vraiment.
Ah bon?
C'est pas vraiment constaté ça. La violence, elle existe dans tous les milieux.
C'est plus compliqué d'intervenir dans les milieux aisés.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voyez, par exemple ?
C'est plus compliqué parce que c'est des gens qui connaissent mieux leurs droits, qui vont prendre un avocat, qui vont être plus procéduriers, donc ça va être plus difficile.
Les avocats ne sont pas là pour protéger
les... Ça veut dire que vous avez moins d'informations préoccupantes qui émanent de familles maltraitantes dans des milieux aisés ?
J'ai l'impression qu'on en a moins. Après, je n'ai pas de chiffres ou de statistiques me permettant de l'affirmer, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins. Ou qu'en tout cas, quand il y en a, l'intervention est plus délicate.
Yves Crespin ?
Non, moi, ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que la lutte contre la maltraitance des enfants est l'affaire de tous. Que tout le monde doit être concerné, parce que c'est une priorité que de protéger un enfant qui est le plus faible de la société. Et pour ça, il y a des structures, mais il n'y a pas seulement ces structures qui peuvent aider, il y a surtout la conscience que doivent avoir les populations, les voisins donc, tout le monde, les médecins, les enseignants, enfin tout le monde doit être concerné par ce problème de protection et par l'obligation de dénoncer.
Alors justement,
il y a peut-être à ce sujet-là justement un manque de communication ou de campagne nationale. Vous disiez tout à l'heure, il y a la campagne des violences faites aux femmes, effectivement, dont on a beaucoup entendu parler.
Qui est ultra médiatisée.
Voilà. Et je pense que, enfin, moi, je vois que dès qu'il y a un article de presse sur le 119 ou sur l'enfance maltraitée, nous, on sent les effets dans les semaines suivantes. C'est-à-dire qu'on a plus d'informations préoccupantes qui arrivent, on a plus d'appels du 119 qui arrivent. Donc, ça veut dire que s'il y a cette pression, entre guillemets, qui est maintenue tout au long de l'année, je pense que ça pourrait permettre aussi aux gens.
Quand vous discutez avec les établissements scolaires, par exemple, vous sentez une réticence,
non,
Louis Merlin?
Moi, je sens pas de réticence de la part des établissements scolaires. Au contraire, on travaille...
À procéder à des informations préoccupantes ?
J'ai pas ce sentiment-là. Alors, le service social scolaire à Paris dépend de la direction de l'action sociale du territoire. Donc, on travaille avec eux, main dans la main. On a fait avec eux le processus d'évaluation des informations préoccupantes. Donc, j'ai pas ce sentiment-là. Ils sont très preneurs de conseils par rapport à ça, donc ils n'hésitent pas à nous appeler, ils n'hésitent pas à transmettre des constats de coups faits par des médecins scolaires.
Si vous permettez, mon association intervient régulièrement dans des lycées ou des écoles pour faire de la prévention, des séances de prévention, d'information des jeunes écoliers, et à chaque fois, malheureusement, ça déclenche des révélations. C'est assez terrible. Il faut savoir, nous avons fait un sondage récemment.
Ça veut dire qu'en fait, il faut venir quémander les cas, finalement,
voilà,
d'une certaine manière.
Dans chaque classe de 30 élèves, il y a 3 enfants qui auront été maltraités.
Systématiquement. Dans chaque classe de 30 élèves, il y a 3 enfants
absolument.
Qui sont maltraités,
voilà,
ou qui l'ont été.
Voilà, c'est 1 sur 10 à peu près. Vous voyez, donc, c'est un vrai problème. La France a la chance d'avoir des structures elle n'a même pas suffisamment de moyens financiers, comme le disait M. Merlin. Elle ne met pas suffisamment de moyens, mais il y a toutes les structures législatives, associatives, institutionnelles, pour prendre en charge la maltraitance des
enfants. Nous prenons des auditeurs qui nous appellent au 33 1 84 22 71 71. Et bien évidemment, vous pouvez réagir. Nous accueillons Emmanuel, qui est à Libreville, au Gabon. Non, d'abord Cher, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Cher, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Cher, je crois que vous voulez nous parler du rôle des délégués de quartier à Dakar aujourd'hui, qui tentent de faire des signalements pour les enfants qui sont battus.
Je ne suis pas de Dakar, je suis, pour une précision, j'appelle de Ziguinchor comme ça.
Ah d'accord.
Une ville du sud du Sénégal.
Oui, tout à fait, au Casamance, oui.
Et en plus aussi, ce n'est pas des délégués des quartiers, c'est des femmes, c'est une structure de femmes.
Oui.
Que l'État a mis en place pour qu'ils s'occupent de la petite enfance, de la vie sociale des couples et des femmes en situation ou des enfants en situation.
D'accord. Et quel est le rôle de ces femmes exactement pour justement le sujet qui nous occupe, pour le lutter contre la maltraitance grave des enfants?
Voilà, le rôle de ces femmes, c'est de les venir en aide, par exemple les couples ou bien les enfants. Surtout moi, je vais parler sur les enfants parce que comme c'est le sujet du jour,
oui.
ils viennent beaucoup en aide aux enfants en situation,
oui.
aux enfants en difficulté. Parce que déjà, on rencontre maintenant beaucoup de maltraitance au niveau des familles pour les enfants, surtout les familles en difficulté, les parents qui se sont divorcés, des trucs comme ça.
Oui.
Donc la plupart la garde des enfants, soit du côté de la maman ou bien du père, mais des fois, ça amène des problèmes parce qu'il y a une sorte de vengeance que les parents déchaînent sur leurs enfants. Mm-hmm. C'est comme si que c'était eux, malheur de leur couple.
C'est ça, un problème familial déchaîne une violence contre les enfants qui sont effectivement, qui servent de bouc émissaire. Vous souhaitiez nous signaler, nous donner des exemples où il y a eu des condamnations de mères maltraitantes, par exemple. Je crois que vous vouliez nous parler d'un cas.
Oui, parce que j'ai assisté à une fois à une scène, c'est fréquent, mais cette scène-là est un peu plus violente parce que la maman a frappé son enfant jusqu'à brûler ses mains.
À Ziguinchor, donc.
Brûler ses mains, après, voilà. Jusqu'à brûler ses mains. Après, par la suite, on est allé voir les femmes qu'on appelle, on les appelle les badiennes de bord.
Oui.
On les a soumis le problème et ils sont venus constater les faits.
Oui.
Ils ont vu que réellement, quoi, cet enfant a bel et bien été brûlé les mains par sa maman. Quoi.
Donc ça a été signalé ensuite à la police.
Les badiennes de
bord
sont passés à... Oui, ils sont allés à la police dénoncer les faits. Mm-hmm. Après, la police est venue prendre la femme. Voilà, ils l'ont traduit en justice et voilà, elle a écopé de 6 mois de prison.
D'accord, donc il y a eu une condamnation. Donc ça avance tout de même.
Oui, ça avance beaucoup même. Surtout l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup de choses. En train de faire beaucoup de choses sur ce genre de situation pour la protection des enfants surtout.
Ouais. Merci de nous avoir appelés, Cher. Emmanuel nous appelle de Libreville au Gabon.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Oui, je souhaitais vous parler directement ma propre situation que j'ai vécue.
Oui.
Voilà. Moi, j'ai fait le primaire dans les années 90. Mmh. Donc, et à la maison, là où le foyer, on vivait dans un foyer reconstitué,
oui.
avec le papa qui s'est remarié,
oui.
avec les décès de maman.
Mmh.
Et puis voilà, comme ça. Le stress des parents, moi, je ressentais ça parce que je suis le seul garçon de mon père.
Mmh.
Donc, voilà, à chaque fois que je faisais une bêtise, les sévices étaient de plus en plus grands et prolongés. Et à l'école, je me battais aussi contre la même chose. Parce qu'il faut comprendre que le système éducatif gabonais, à l'époque, autorisait les sévices corporels.
Mmh.
Au point où on pouvait te tabasser en public, le maître s'appelait à te tabasser en public, devant les élèves, parce que tu n'étais pas bien aligné au drapeau. Mmh. Tout comme à la maison, c'était...
C'est en train de changer, mais effectivement, néanmoins, ça reste souvent encore perçu comme légitime, ce qui veut dire que du coup, il n'y avait aucune structure susceptible d'aller voir votre père et votre belle-mère pour dire qu'il y avait un problème dans la famille et qu'il y avait très clairement... Voilà. Donc en fait, l'école et la famille se répondaient dans la violence.
Ça se répondait dans la violence et le problème était qu'un enfant n'est pas écouté en Afrique, surtout. J'ai été confronté à ce problème-là parce qu'à chaque fois que j'ai dénoncé en gauche à droite, ça m'est retombé dessus parce qu'au final, je me retrouve toujours auprès des mêmes personnes.
Ouais.
Parce que je vais aller me plaindre de mon maître, c'est mes parents, Après, je vais revenir forcément à l'école.
Oui, bien sûr.
Et je vais toujours me faire passer dessus.
Un enfant n'est pas écouté. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Je pense que nos invités veulent réagir. Alors bien sûr, la situation sur le continent africain est très différente. Néanmoins, aujourd'hui, lorsqu'un enfant souhaite s'exprimer sur des maltraitances qu'il subit, je vous pose la question, Louis Merlin. Est-ce que vous jugez que ça peut être, la situation peut être compliquée pour lui alors qu'il reste dans sa famille?
Alors, en fait, tout dépend de ce qu'il va révéler comme maltraitance. Ça arrive assez régulièrement. Un enfant qui, accompagné par un camarade de classe, se présente pour aller voir l'assistante sociale scolaire ou la directrice de l'école, pour dire qu'il a été victime de coups la veille, ou que si on met un mot dans son carnet, il ne veut pas rentrer à la maison parce qu'il a peur. Et c'est là qu'on commence à lui poser quelques questions pour savoir un petit peu où en est sa situation. Il arrive très régulièrement que l'enfant soit mis à l'abri dans la journée. C'est-à-dire que nous, selon les éléments qu'on a, on sollicite le parquet des mineurs, qui peut prendre une ordonnance de placement provisoire et que l'enfant soit confié, c'est-à-dire qu'il ne repasse pas par la case domicile de l'école, il est accompagné par les services de l'aide sociale à l'enfance dans une structure, et qu'ensuite on poursuit l'évaluation de la situation. Alors il y a le cadre pénal, j'ai envie de dire, c'est le parquet qui va juger des poursuites ou non, ou d'une enquête de police ou non.
C'est-à-dire que l'intimidation ensuite judiciaire peut fonctionner sur la famille maltraitante ou pas?
J'ai pas d'élément de réponse à ce niveau-là.
Oui, heureusement, parce que là, il y a une réponse. Et c'est une réponse immédiate que décrit M. Merlin. Tant mieux, c'est un monde idéal.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est dans une administration idéale.
Je crains malheureusement que ce soit pas la situation de de tous les cas qui
c'est-à-dire
sont
signalés. C'est-à-dire que moi, je parle des cas que je vois passer qui sont signalés. Dès lors qu'ils sont signalés, le chemin, c'est ça.
C'est très bien.
Voilà.
Tout ça est très bien, mais c'est malheureusement pas le cas général. Nous constatons trop souvent que les réponses, ce que je disais initialement, les réponses sont tardive ou insuffisante.
Ou lente. On a bien compris la chaîne des défaillances. Omera Sellier, vous lancez une campagne, hein, enfin votre association lance la campagne Guilty Tags. De quoi s'agit-il exactement?
Nous sommes partis d'une dizaine de cas sur lesquels l'innocence en danger s'est constituée partie civile dans les dernières années, notamment l'année en cours. Et nous avons parlé avec une équipe à l'agence McCann qui était très sensibilisée à ce sujet. On a étudié dans chaque cas le nombre de personnes qui auraient dû, qui auraient pu agir et qui auraient fait que cet enfant serait en vie aujourd'hui. Donc des personnes qui sont coupables par leur silence puisque l'enfant est mort, alors que tous auraient pu intervenir.
Ça veut dire que vous livrez sur des réseaux sociaux des photos, par exemple d'une institutrice.
Attention, les photos sont des photos, évidemment pas des vraies photos, c'est contre la loi. On ne peut pas, les enfants, c'est des enfants dont les parents nous ont permis de mettre des photos fictives. C'est basé sur des cas vrais, mais il est absolument hors de question qu'on mette en scène des enfants ou des instituteurs ou des personnes réelles qui ont agi dans ces dossiers-là. On n'a pas le droit et on n'est pas fou pour faire une chose pareille. Mais par contre, ce sont des photos que des personnes ont bien voulu nous donner. Quelqu'un qui dit « je veux bien être l'institutrice, je vous prête ma photo ». Donc c'est parti comme ça.
C'est pour montrer la liste des personnes qui ne pouvaient pas ne pas voir et ne pas savoir.
Absolument.
Et qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas
exactement
dénoncé.
Qui n'ont pas agi.
C'est quand même un peu une forme de... C'est une sensibilisation. Hein,
C'est une sensibilisation parce que, vous savez, quand on est sur le terrain, moi, je trouve ça merveilleux que vous parliez des écoles où on a pu parler, que l'enfant a été écouté, etc. Moi, je ne vois pas ça. Bon, évidemment, les cas qui viennent à Innocence en danger sont les cas où il y a eu problème. Quand il n'y a pas de problème, on ne vient pas frapper à notre porte. Donc, moi, je vois vraiment, lorsqu'il n'y a pas eu d'autre recours pour les parents, ça arrive chez nous. Donc, je vois les cas extrêmes et c'est vrai que je vous avoue qu'à la fin de la journée, je me dis oui, il faut en tant qu'association, ou on fait autre chose, ou si on est dans la protection des enfants, vu les dysfonctionnements, vu les failles, vu le nombre d'enfants qui souffrent au quotidien, sans parler de ceux qui meurent, il faut sensibiliser l'opinion publique. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Il faut le faire.
Aujourd'hui, une famille qui déménage, par exemple, est-ce que s'il y a un soupçon de maltraitance, s'il y a déjà une assistante sociale qui est passée voir cette famille, qui suit le dossier, qui se dit qu'il y a quand même un problème dans cette famille, en cas de déménagement, est-ce que la nouvelle école qui va accueillir l'enfant sur lequel il y a un problème est informée qu'il y a déjà un dossier ouvert?
Alors, la nouvelle école, non, mais le président du conseil départemental du département où va emménager la famille
est informé. Pourquoi pas l'établissement scolaire?
Après, tout dépend un petit peu de ce qui se passe dans la famille exactement. S'il y a une évaluation qui est déclenchée, par exemple une évaluation est déclenchée sur Paris, et la famille déménage, dans ces cas-là, on informe la CRIP de l'autre département qui va poursuivre cette évaluation. Mais si on n'a pas une évaluation qui est déclenchée,
Pardon, je voudrais dire une chose. En 2013, à la suite du procès Marina, nous avons été voir le ministre chargé des affaires familiales. Il y a une chose très simple à faire. Nous sommes à l'ère informatique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un fichier informatique national de toutes les familles qui sont suivies par les travailleurs sociaux avec l'obligation que chaque école, que chaque administration puisse... soit obligé de la consulter. On éviterait beaucoup de drames.
Est-ce que le plan de Laurence Rossignol, ex-ministre de la Famille, maintenant, hein, puisqu'on a un nouveau président de la République, va survivre à l'alternance gouvernementale et à un plan d'économie budgétaire
On l'espère, bien sûr.
Les politiques de protection de l'enfance sont indépendantes des orientations politiques des gouvernements, heureusement, parce que c'est une priorité.
Merci en tout cas à vous tous. Omer Asselier, Innocence en danger. Bien sûr, on a mis le lien pour la campagne Guilty Tags. Merci à vous, Yves Crespin, avocat pour l'Enfant Bleu. Et merci à vous, Louis Merlin, responsable de la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes de Paris qui dépend de l'aide sociale à l'enfance. Merci à toute l'équipe également. Et surtout, merci à vous, les voisins et les voisines, de nous avoir appelés pour nous parler de vos souffrances passées, mais aussi de toutes vos attentes concernant la maltraitance des enfants, notamment sur le continent africain. On se retrouve demain, même heure, même endroit, les voisins.